peinture, sculpture, dessin, architecture. L'art en partage, Evelyne Ugaglia. Bonjour et bienvenue sur Esprit Occitanie. Après avoir évoqué à ce micro la technique de la figure noire dans la peinture de céramique grecque, vient le temps de la peinture des vases à figure rouge dont Euphronios, sur lequel nous allons nous attarder, a été à la fois pionnier et maître à partir des années 520 avant notre ère. Dans les années 530 avant notre ère, les peintres de la céramique grecque étaient arrivés au maximum de leur capacité à traduire le réel dans les tableaux mythologiques ou les scènes de genre dont ils ornaient les vases du quotidien. La technique de l'incision permettait de traduire le modelé, les détails des personnages qui apparaissaient alors en couleur terre cuite sur le fond noir du vernis, mais cela restait un art de la gravure avec ses limites qui ne satisfaisaient pas totalement le peintre. À Athènes, certains peintres, tels le peintre d'Andokides, eurent l'idée d'inverser les choses en réservant sur le fond noir du vase le contour de leurs personnages, des décors et des accessoires. Ceci de manière qu'après la cuisson, ils apparaissent dans la couleur de la terre cuite. Ils avaient ainsi toute liberté de peindre en noir sur ce qui serait le fond clair de la céramique, tout le modelé, les ustensiles, le décor qui donnait vie à leur sujet. Pour cela, ils utilisaient des pinceaux très fins, parfois à un poil. Au départ, bien souvent, les vases sont bilingues, c'est-à-dire proposant les deux techniques, celle à figure noire sur une face et celle à figure rouge sur l'autre face. Ainsi, à Athènes, qui détient désormais le monopole de cette production dans la deuxième moitié du VIe siècle avant notre ère, les céramistes sont passés d'un art de la gravure à celui de la peinture. 10 ans plus tard, de jeunes peintres vont exploiter cette nouvelle technique et la développer le plus possible. C'est ce qu'on a appelé le groupe des pionniers, composé en particulier de Timidès, de Phintias, de Smicros, du peintre de Sosias et d'Euphronios, le plus important de tous, celui auquel nous allons nous intéresser de plus près dans un petit moment. Cette période charnière, entre l'invention de la figure rouge et l'affirmation de la grande peinture au début du siècle suivant, n'a pas d'équivalent dans l'art vasculaire grec. Tout d'abord, c'est l'époque où Athènes règne en maîtresse de la production et inonde quasiment tous les marchés méditerranéens. Même si les motifs s'adressent avant tout aux Athéniens et aux Grecs, ces vases vont séduire d'autres peuples, comme les Scythes vers l'est de la Méditerranée, ou, à l'opposé, à l'ouest, les Ibères, et tout particulièrement les Étrusques de la péninsule italienne, où on a retrouvé en nombre ces vases dans leurs sépultures. Les céramiques attiques sont alors des pièces incontournables des riches trousseaux funéraires de l'aristocratie étrusque. Ce groupe de peintres, que nous appelons les pionniers, se distingue en ce sens qu'ils pratiquent exclusivement la technique de la figure rouge. Cette technique est surtout développée par le peintre d'Andokides, mais aussi par Psyax, qui sera le maître d'Euphronios. Les premiers peintres de la figure rouge sont restés modestes. Il l'utilise surtout pour enrichir le décor de détails, sans qu'un réel progrès ne soit fait pour traduire la justesse et la souplesse des corps, développer la musculature ou les attitudes réalistes, comme vont s'attacher à le faire les pionniers. Prenant à bras le corps cette technique, ces derniers vont tenter d'en tirer le meilleur parti, notamment pour mieux définir les masses musculaires. Et surtout, ils comprennent très vite que cette nouvelle technique leur permet de réaliser un dessin à main libre, nettement plus souple et plus riche qu'il n'était jusque-là. Il s'agit d'une poignée d'individus qui vont se stimuler l'un l'autre pour maîtriser ce nouvel art dans les 20 dernières années du VIe siècle avant notre ère. Ils ont une véritable conscience de leur talent et désormais signent leurs œuvres en tant que peintres. Même si les figures et les signatures parvenues jusqu'à nous peuvent paraître dérisoires pour la même période, elles sont plus importantes que celles des potiers. Par exemple, à la période précédente, pour les vases retrouvés, Exekias, dont nous avions parlé à ce micro, avait signé 10 de vases en tant que potier et 2 seulement en tant que peintre. À la fin du siècle, pour à peu près le même nombre d'œuvres conservées, Euphronios a signé une dizaine de vases comme peintre. Il semblerait que ces peintres soient aussi plus mobiles, en ce sens qu'ils travaillent pour plusieurs ateliers de potiers. Euphronios travaille surtout pour Cacrillion et pour Euxytheos. Ces peintres du groupe dit des pionniers constituent une espèce d'élite. Ils en ont conscience et ils le font savoir en se mêlant à la jeunesse aristocratique d'Athènes. Leur personnalité s'affirme en tant qu'artiste, ayant sa place dans une société qui considère peu les artisans, et les potiers en particulier. C'était un peu pareil pour les sculpteurs, jusqu'à ce qu'au siècle suivant, Phidias et le groupe des sculpteurs du Parthénon s'affirment en tant que tels. Les peintres du groupe des pionniers n'hésitent pas à rivaliser entre eux, sur les vases eux-mêmes, et non seulement ils écrivent les noms des personnages, mais ils s'interpellent dans une sorte de rivalité sympathique. Ainsi, Euthymides, sur une amphore aujourd'hui conservée à Munich, écrit « comme jamais Euphronios », sous-entendu « comme jamais ne sera capable de faire Euphronios », dans une sorte de rivalité artistique déclarée. Ou bien il s'interpelle simplement en offrant des choses, comme Phintias, qui écrit sur une scène figurée sur une hydrie, également conservée à Munich, « à toi ceci, belle Euthymides », au-dessus de deux étaïres, deux prostituées, à demi-nues, discutant à demi-allongées sur des lits de banquet. Donc ils font ça avec beaucoup d'humour en même temps. Et parfois, ils se sont représentés sur les vases. Par exemple, sur un psyctère, c'est une espèce de vase que l'on plaçait dans le cratère rempli de glace pour le rafraîchir. Enfin, on mettait le vin dans le psyctère et on plaçait cela dans le cratère plein de glace. Ou alors, c'était le contraire, on mettait de la glace dans le psyctère et pour rafraîchir le breuvage qui était dans le cratère. Sur celui conservé au Griti Museum de Malibu et attribué à Smikros, sont représentés des jeunes hommes dans des attitudes de séduction amoureuse. Leur nom est inscrit dans le champ. Parmi eux se trouve un jeune homme drapé et couronné, appuyé sur sa canne, signe aristocratique s'il en est, qui tend la main vers un compagnon qui se tourne vers lui. Smikros a nommé le premier Euphronios et son compagnon le beau Léagros, comme on retrouvera sur d'autres vases. Euphronios a lui aussi représenté son collègue Smikros sur un cratère également conservé à Munich. Bien entendu, il ne s'agit pas de portraits véristes. À cette époque-là, les figurations des personnages sont stéréotypées, en quelque sorte, et ne diffèrent entre elles que par des détails stylistiques qui permettent de les attribuer à tel ou tel peintre, mais surtout pas d'identifier un individu réel. Ce sont les noms qui nous permettent de les identifier. Les peintres n'hésitent donc pas à se placer sur le même plan que la jeunesse aristocratique athénienne, dont ils évoquent les mœurs et les loisirs. Mais soyons clairs, s'ils le font, c'est que leur position sociale les y autorise, parce qu'ils participent en personne à ces loisirs. Sans cela, ils ne seraient pas autorisés à se représenter ni à se nommer sur les vases. Le groupe des pionniers va apporter des nouveautés indéniables dans le rendu précis et le plus juste possible des corps masculins nus, de leur musculature, ce qui laisse supposer qu'ils avaient attentivement observé ces corps nus, ce qui était relativement facile à la palestre. Par exemple, concernant le dessin de l'abdomen, avec ses 6 masses musculaires, son rendu est désormais rigoureusement exact, de même que la ligne de séparation verticale qui court du nombril jusqu'au pubis. Cette ligne, appelée médicalement parlant « linea alba », se compose de substances fibreuses, mais elle n'est absolument pas visible sur un corps vivant. On ne peut la voir que sur un écorché, ce qui suppose qu'un des peintres, au moins, avait fait l'expérience visuelle de cela. La souplesse du dessin permet de représenter des attitudes plus variées et plus réalistes, de même que le plissé des vêtements, féminins en particulier, plus souple, plus naturel, et qui favorise tout un jeu dont les peintres successifs ne vont pas se priver. L'invention des raccourcis et la manière de placer les personnages dans l'espace, plus audacieuse, plus juste, est certainement le progrès le plus spectaculaire, en particulier chez Euphronios, qui semble en être l'inventeur, comme on va le voir dans une œuvre d'une grande puissance qu'est le cratère dit de la mort de Sarpédon. Tout d'abord, deux mots sur Euphronios, peintre athénien, né vers 535 avant notre ère, mort après 470, et dont la production s'échelonne de 520 à 505 avant notre ère en tant que peintre, tandis que les 30 années suivantes, jusqu'en 470, il sera exclusivement potier. Il débute dans l'atelier du potier Cacrillion, où il est l'œuvre du peintre Psyax et décore alors surtout des coupes, dans un style plutôt miniaturiste. Puis, il passe à des pièces de plus grande dimension, comme les cratères, d'un style plus simple, mais qui dénote sa maîtrise et son ingéniosité, alliant précision des détails et recherche nouvelle. Un travail d'une grande importance qui décore principalement les productions du potier Euxytheos. 6 vases parvenus jusqu'à nous portent la signature de Phronios en tant que peintre. Sans que l'on n'en sache la raison précise, vers la fin du VIe siècle, Euphronios arrête de peindre et devient potier. Certains ont émis l'hypothèse d'une vue affaiblie, on peut aussi imaginer un problème de santé qui altérerait la précision de sa main, mais si on suit Diffry Williams, qui est responsable de la recherche d'antiquités grecques au British Museum, ce serait plus simplement parce que le potier est plus important que le peintre en termes de statut social et que devenir responsable d'un atelier était à Athènes bien plus enviable. On connaît 10 autres vases portant la signature de Phronios en tant que potier, Euphronios et Poison. Euphronios m'a façonné. Sa signature est soit peinte, soit gravée sur la tranche du pied des coupes en particulier, ou dans l'espace des cratères. Sa production était décorée par différents peintres qui semblent avoir été ses élèves, ou du moins travaillent dans le prolongement de son style. Le plus important est Onésimos, mais il avait aussi travaillé, ses vases avaient aussi été peints par le célèbre Douris. On peut alors imaginer, sans trop se tromper, que Phronios termina sa carrière en tant que responsable d'un atelier de potier dans lequel travaillaient pour lui et ses compagnons de 3 à 6 peintres.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en coupe et par le col. Un jour, je m'en irai très loin en Amérique donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique et Bordeaux coulera sous mes vastes pontons. Quel est long le chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, t'en fais pas, mon ami, j'y vieillirai. Rassasié d'anciens ployants sous les tropiques, un jour m'en reviendrai, les voiles en avant, porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remandant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur, les gens s'écarteront, saluant la Madone en coupe par le col et d'une autre couleur. Qu'il est doux le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. Pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour. À ton tour.
venez d'entendre Le bateau espagnol, écrit et composé par le grand Léo Ferré en 1950 et que l'on entendait l'interpréter dans un enregistrement public de 1988. Vous êtes toujours sur Esprit Occitanie, l'art en partage. Et c'est à Euphronios, grand maître athénien de la peinture vasculaire à figure rouge, à la fin du VIe siècle avant notre ère, qu'est consacrée cette émission. Son vase de prédilection est donc le cratère en calice. Les cratères sont de grands vases, souvent de plus de 45 cm de haut, pour un diamètre d'au moins 55 cm, utilisés lors du symposium, moment qui suit immédiatement le banquet, durant lequel les hommes entre eux consomment le vin de manière ritualisée, ce vin qui est toujours coupé d'eau et des épices, et agrémenté d'épices. Ce qui ne les empêche pas d'aller évidemment jusqu'à l'ivresse. Deux ans se délimitent deux faces, pour lesquels l'espace à décorer est suffisamment important pour que les peintres puissent y exprimer tout leur talent. Deux grands cratères, presque complets, peints par Euphronios, sont particulièrement célèbres, tous deux datés des années 515-510 avant notre ère. Il s'agit de celui représentant le combat d'Héraclès et Anté, provenant de Cerveter et en Étrurie, dans le Latium, non loin de Rome, et aujourd'hui conservé au musée du Louvre, et celui représentant Sarpédon, enlevé par Hypnos et Thanatos. Il est signé à la peinture rouge Euxytheos Epoisen, soit Euxytheos m'a façonné, donc en tant que potier, en deux lignes diagonales en haut à gauche de la face principale. Sur la même face, sur le côté droit, sous la lèvre, on peut lire une acclamation horizontale à la beauté de Léagros, Léagros Kalos, encore lui, suivie de la signature du peintre Euphronios et Grapsen, qui s'étire jusqu'au début de la face opposée, donc Euphronios m'a peint. Il s'agit là d'un des vases, sinon le vase majeur du peintre, celui que je vais maintenant vous détailler. Lui aussi a été découvert dans une des nécropoles de Cerveter, mais malheureusement par des tombaroli, c'est-à-dire des pilleurs de tombes sans scrupules, qui l'ont vendu, et c'est ainsi que le vase s'est retrouvé chez d'importants collectionneurs américains. Ces derniers ont fini par le vendre très cher, au Metropolitan Museum of Art de New York en 1972, où il fut très étudié par le directeur du département des antiquités de l'époque, Dietrich von Bosmer. Si, pour mieux suivre cette émission, vous allez, comme je l'espère, sur le web pour avoir des images des œuvres dont je parle, vous trouverez très facilement celle de ce magnifique vase. Mais l'Italie ayant pratiqué une politique de rapatriement des œuvres sorties indûment de son territoire, sachez que vous pouvez aussi désormais aller contempler ce vase exceptionnel en Italie, où depuis 2014, il a trouvé la place qu'il aurait toujours dû avoir au Museo Nazionale Cerite de Cerveter. Après son retour, il avait été exposé quelques mois au Museo Nazionale Etrusco de la Villa Giulia Rome. Euphronios a placé sur la place principale de ce vase un sujet inspiré d'un passage de l'Iliade, ce poème homérique qui raconte la guerre de Troie. Il s'agit du passage qui raconte la mort du prince lycien Sarpédon, fils de Zeus et d'Europe. Il vient d'être tué par Patrocle sur le champ de bataille de Troie et Patrocle lui a enlevé ses armes qu'il a envoyées au camp des Grecs, excepté ses cnémides, c'est-à-dire les protège-jambes. Le corps du jeune homme s'étale donc nu devant nous, tête à droite et jambes à l'opposé, dans la partie inférieure du panneau, occupant tout l'espace. Dans l'Iliade, Apollon est chargé par Zeus d'organiser ses funérailles. Sur le vase, c'est Hermès, le messager des dieux, qui en a la charge. On le reconnaît grâce à ses attributs, le caducée, qu'il tient dans sa main gauche, son chapeau ailé particulier, le pétase, et aux ailes qui décorent ses bottines lacées. Debout, derrière Sarpédon, au centre de la scène, Hermès, la main droite levée, affirme son rôle de psychopompe, c'est-à-dire de conducteur des âmes, et en tant que tel, il dirige la scène. Le dieu messager est encore barbu, comme sur les vases à figure noire, donc représenté un homme mûr, contrairement aux représentations à venir du siècle suivant. Il est vêtu d'un chiton de lin plissé, court, rehaussé d'un lavis rouge, et par-dessus porte la chlamyde, le manteau court à large pli des voyageurs et des guerriers. Il est représenté dans une posture inversée encore maladroite, c'est-à-dire qu'au sol, ses pieds de profil vers la droite forment un pas réaliste, déterminé. Puis ses jambes sont cachées par le corps de Sarpédon, au-dessus sa cuisse droite apparaît de profil dans le prolongement de son pied et le chiton laisse entrevoir l'arrière de sa fesse droite de profil également. mais le raccord avec sa taille et le buste censé se tourner vers l'arrière, alors qu'ils sont quasiment de face, est plutôt maladroit. Le peintre a compensé son raccourci malhabile en le dissimulant sous le pan gauche de la chlamyde. Dès lors, la position est incorrecte, mais s'efface devant le corps de Sarpédon au premier plan. En fait, on ne le remarque vraiment que lorsque le regard s'attarde sur chaque détail, centimètre par centimètre. Preuve que le peintre avait parfaitement conscience de cette difficulté. De part et d'autre, du héros, les fils de Nyx, la nuit, les jumeaux, Hypnos, le sommeil, et Thanatos, la mort, dont les noms sont peints en rouge sur le vernis noir du vase, sont arc-boutés sur le défunt. Ils soulèvent le corps du jeune roi pour l'emporter dans les airs jusqu'en Lycie où auront lieu ses funérailles. Hypnos, à gauche, saisit les jambes dont la droite, à demi pliée, est pendante et la gauche tournée vers nous, pied de face, effleurant à peine le sol dans un raccourci magistral. Elle est en train d'être soulevée. Une attitude extrêmement réaliste. Le corps du défunt s'abandonne lourdement. À l'opposé, Thanatos le prend par les épaules. Le bras droit de Sarpédon passé devant son buste semblant traîné par terre et le gauche allongé en arrière et sa tête pendante, de profil à gauche, ne laisse aucun doute sur son état. Il est bel et bien mort. Même si, de façon irréelle, le sang continue de couler pour montrer l'impact de ses blessures. Thanatos regarde son frère comme s'il en attendait le signal de l'enlèvement. Tous deux sont équipés comme des guerriers pour replacer la scène dans l'histoire, celle d'une guerre. Ils sont richement vêtus d'un chitone court sous un corselet de cuir ceinturé à la taille. Celui de Thanatos est minutieusement orné d'écailles, leur casque corinthien à cimier à la visière relevée, et ils portent aussi des cnémines. Et leurs ailes, placées en arrière et prêtes à s'envoler, sont aussi délicatement représentées. Sarpédon, en contraste, est donc nu, hormis ses cnémines. Un flot de sang rouge évoqué par plusieurs longs traits obliques jaillit de ses trois blessures, à la cuisse droite, au ventre et celle qui lui fut fatale au cœur. Elle est d'ailleurs plus épaisse que les autres. Le peintre a passé un lavis brun clair, presque rouge sur la chevelure frisée, comme sur celle de Thanatos. De longs cils soulignent ses paupières qui, curieusement, ne sont pas complètement fermées. Euphronios a travaillé de manière très précise la musculature de ce corps, comme s'il avait choisi ce prétexte pour démontrer son savoir-faire. Les masses musculaires, en particulier les cils de l'abdomen, à la fois justes et idéalisés, sont matérialisés d'un trait fin, tandis qu'un léger haut de la vie en dessine les ombres. La linéa alba, du pubis au nombril, est présente, dessinée avec légèreté, tandis que le bourrelet de l'attache suslinguinale, ensailli au-dessus des cuisses et que l'on retrouve chez tous les athlètes, est nettement marqué d'un trait sûr. Tous les autres muscles sont dessinés d'un trait fin, tantôt noir, tantôt brun. Pour tous les personnages, l'œil reste de face. Mais ceux des deux génies sont traités de manière à paraître plus clairs. Seul Thanatos, comme Sarpédon, a des paupières garnies de cils. Un trait épais souligne le contour de tous les personnages, souvent en zigzag pour les chevelures, et généralement de couleur rouge ou claire pour séparer les sujets du fond noir du vase. La scène se passe en présence d'une garde troyenne, évoquée par deux soldats en armes, debout, de profil, encadrant de part et d'autre la scène centrale. Léodamas à gauche et Hippolytos à droite, comme l'indique leur nom, là encore peint en rouge. La visière de leur casque est relevée sur leur tête aux cheveux bruns, frisés et longs. Comme les autres personnages, excepté Sarpédon, ils portent une barbe noire, longue et pointue, signe de leur maturité. Les soldats sont présents pour signifier à la fois le champ de bataille et le moment dramatique de ce héros qu'ils veillent, mais ce ne sont que de simples mortels. En conséquence, ils ne regardent pas la scène, car ils ne peuvent voir les divinités qui s'agitent autour du corps du fils de Zeus et à la demande du dieu des dieux. On voit donc que le peintre a longuement exprimé son talent dans les détails, rien n'est laissé au hasard. La composition de la scène est tout autant magistrale, rigoureuse, monumentale. Il s'agit d'une composition en auge ou en trapèze qui souligne la forme du vase. Le corps du héros est allongé en ligne de base et les soldats debout le long des parois verticales. Tandis qu'au centre, Hermès et les deux divinités forment un triangle dont le corps de Sarpédon est la base. Deux autres lignes, partant du pied gauche d'Hermès et passant par les ailes des deux génies, forment un V qui va à l'inverse du triangle. Une composition donc complexe, axée sur la divinité Psychopompe qui organise toute la scène. Au revers, la scène représente des soldats en train de reprendre les armes. À gauche, un hoplite, c'est-à-dire un fantassin, vêtu d'un chiton court, est en train d'enfiler sur son épaule droite le baudrier qui maintiendra le fourreau de son épée. Devant lui, et lui tournant le dos, un hoplite courbé, nu, jambe gauche relevée, enfile sa deuxième cnémide, tandis que son bouclier est posé au sol. Face à lui, son compagnon, déjà armé, le regarde en l'attendant, debout. Sur le bouclier de ce dernier, l'épizème représente un crabe jouant de la double flûte. Derrière ce soldat, prêt pour le combat et lui tournant le dos, un autre soldat en armes, nu, au rincin d'une draperie, ramasse le bouclier posé devant lui. Il est prêt à partir. Et un autre, armé et plus âgé que tous les autres, comme le montre sa barbe, l'attend, tourné vers lui. Il pourrait aussi être le responsable du groupe, le chef en quelque sorte. Sous son bouclier timbré d'un scorpion apparaissent les plis de son chiton court. Dans l'espace, les noms peints en rouge les désignent tous. De gauche à droite, on lit Hyperocos, Hypasos, Médon, Acastos et Axipos. D'après les auteurs anciens, Hyperocos serait à la fois une victime troyenne d'Ulysse et un des fils de Priam, le vieux roi troyen. Hypasos pourrait aussi être un fils de Priam. Il s'agit donc de Troyens, compagnons d'infortune de Sarpédon. Les funérailles terminées, la bataille doit reprendre. C'est peut-être cela la signification de cette scène, que l'on ne rattache à rien d'autre de précis. Sa simplicité ne fait en fait que renforcer l'impact de la scène principale. Ce cratère est indéniablement une œuvre d'une grande puissance qui correspond à la maturité du peintre, et malgré l'importance du vase, Euphronios est attaché à donner une grande précision des détails. L'effet d'ensemble de la composition renforce l'intensité dramatique. Si quelques maladresses subsistent encore, comme dans le rendu du dos des personnages courbés par exemple, ou l'œil qui est toujours de face, on retiendra cependant qu'avec Euphronios et le groupe des pionniers, les nouveautés fondamentales apparaissent, surtout dans le rendu toujours plus précis, plus exact de la musculature et des corps, et que s'imposent des raccourcis, des audaces nouvelles dans la mise en place des figures dans l'espace. C'était L'Art en partage, une émission animée par Evelyne Ugaglia, à la technique Hugo Pépitone, que je remercie chaleureusement, et je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de la radio Esprit Occitanie, ainsi bien sûr que sur le site web de la station où vous pouvez les podcaster à loisir. Je vous souhaite un très bel été.